Henri de Régnier, La double maîtresse, deuxième partie, chapitre 4. Monsieur de Portebise se sentait fort curieux de voir de près Mademoiselle d'Amberville de l'Académie royale de musique et de danse. Il l'avait entrevue au théâtre, à travers les lumières de la scène, sous le phare, dans les costumes divers de ses rôles, avec ses amples paniers enguirlandés, sa coiffure élevée, parmi l'entrecroisement gracieux des figures de ballet qu'elle animait de sa danse élégante, spirituelle, noble ou passionnée. Elle se confondait dans son esprit avec la clarté des lustres, le mouvement de la musique et les événements fabuleux qu'elle représentait et dont elle débrouillait les intrigues de ses pointes promptes et légères. Elle était, en son souvenir, instable, changeante et fugitive, toute vaporeuse de gaz, toute illuminée du feu des diamants et comme volante de rythme et d'agilité, en une sorte de prestige mobile dont elle était le centre lumineux et qui rayonnait autour d'elle. La célèbre actrice lui avait paru ainsi délicieuse dans l'activité de sa grâce qui se renouvelait à chacun de ses gestes et de ses pas. Mais Monsieur de Portebise savait le peu de réalité dont parfois les comédiennes façonnent le masque apparent de leur illusion, le tout petit peu de chair, de nerfs et d'os dont elles composent leurs fantômes charmants, et ce qui ajoute les aides matérielles de la parure, la pointe des fards et le secours des étoffes dont elles se rehaussent, se griment ou se vêtent. C'est cette différence et cette surprise qui intéressaient M. de Portebise. Il était fort impatient de pouvoir mesurer l'écart qui existait entre la brillante et la fallacieuse sylphide qui avait charmé ses yeux et la créature certaine qui allait lui offrir la simple vue d'elle-même. Ce qui le rassurait le mieux en cette épreuve était que Mademoiselle d'Amberville avait été beaucoup aimée. De ses nombreux admirateurs, il lui restait des amants, et de ses amants, des amis, ce qui laissait à penser que derrière l'apparition aérienne existait une femme terrestre et, sous le masque, un visage. En attendant de pouvoir vérifier son désir, il se rappelait avec délice l'image de Mademoiselle d'Amberville dansant en ce ballet d'Ariane qui faisait vogue en ce moment et où, au dire des amateurs et des gazettes, la belle nymphe s'était surpassée. La scène représentait un lieu champêtre, sauvage, avec de grands rochers couverts de lierre. C'était en ce paysage crétois que les 100 jeunes gens et les 100 jeunes filles, amenés par Thésée en sacrifice au Minotaure, se lamentaient de leur funeste destin. Les évolutions des groupes mêlaient les figures. Puis, chacun des adolescents choisissait une des vierges, et les couples, unis dans une même infortune, adressaient leurs adieux à la vie et mimaient leur désespoir. L'orchestre traduisait leur terreur. Les flûtes rappelaient les plaisirs pastoraux dont un sort cruel allait priver à jamais ces jeunesses offertes et votives. Les violons disaient la plainte des filles, les violoncelles plus graves celles des garçons, et le grondement sourd des contrebasses annonçait les mugissements proches du monstre à tête de taureau. C'est alors qu'apparaissait Thésée, guidé par Ariane. Il portait une soubre veste d'argent moiré avec un dolman. Sa coiffure se composait de 5 boucles de cheveux, poudrées à blanc et surmontées d'un toupet à la grecque. Ses bottines argentées lui montaient à mi-jambe. Ariane le conduisait par la main. Mademoiselle d'Amberville était réputée pour la richesse et le bon goût de ses costumes. Sur un fond de taffetas blanc s'ouvrait une jupe couverte d'argent, retroussée par des nœuds en diamant. Une mante formait draperie aux épaules, parsemée de paillettes, imprimée de fleurs et bordée de franges légères. Ariane s'avançait à petits pas. Tout l'édifice scintillant de sa parure tremblait de feu. Une sorte de poussière de givre semblait s'évaporer autour d'elle. Son visage souriait, rose aux joues et rouge à la bouche. La délicate statue lumineuse, immobile un instant, s'animait peu à peu. À pas légers, elle allait de groupe en groupe, rassurant les tendres victimes qui l'interrogeaient anxieusement. Puis, au milieu d'elle, dressée sur ses pointes, elle s'arrêtait, tous les regards fixés sur son geste. De sa main haute, elle laissait lentement se dérouler le long fil d'or, puis, Elle l'enroulait gracieusement au poignet de Thésée et lui montrait l'entrée du labyrinthe en lui faisant signe de s'y engager. Les chœurs prosternés imploraient. Les contrebasses mugissaient sourdement, les trompettes éclataient en fanfares guerrières et le héros disparaissait entre deux rochers par l'ouverture béante du funeste repaire. Alors commençait une danse qui était, au dire de tous, le triomphe de Mademoiselle d'Amberville. Les pas compliqués d'Ariane indiquaient les détours du labyrinthe. Elle avançait avec précaution ou reculait brusquement, comme devant quelque obstacle, puis repartait, s'arrêtait de nouveau, pirouettait dans un tourbillon argenté. Elle imitait les tâtonnements de la marche dans les ténèbres, les hésitations de la route. Elle exprimait les terreurs de la nuit, les embûches souterraines et enfin la rencontre monstrueuse, la lutte, la victoire et le geste du pied foulant la tête bestiale, le retour à la lumière. Elle se précipitait haletante et avide à l'entrée du labyrinthe, les bras tendus vers le vainqueur qu'on ne voyait pas encore, mais dont la musique annonçait par sa joie l'exploit héroïque et sauveur. Mademoiselle d'Amberville ne se montrait pas moins admirable au troisième acte quand Neptune amène Bacchus vers Ariane. Le monde marin se mêle alors au peuple rustique. Tritons et Silènes dansaient côte à côte. Les Néréides et les nymphes versaient à la même urne leur eau douce et salée. La mer elle-même déposait sur la rive le char du dieu vigneron. Cela formait un spectacle bigarré et dansant, magnifique par la diversité des attitudes, l'entente des décors et l'excellence des machines. Des divinités disparates représentaient le double élément, terrestre ou maritime. Les faunes portaient des masques terreux et les tritons des masques glauques. Ils composaient un divertissement comique où ils houspillaient le mensonge laissé à Ariane par l'infidèle Thésée et que représentait un personnage grotesque avec une jambe de bois, un habillement couvert de petits masques et une lanterne sourde. Et la pièce finissait par une bacchanale dansée où, au milieu des figures de toutes sortes, Ariane apparaissait montée sur le char du dieu parmi les pampres, les tirses et les tambourins. Elle était debout, vêtue d'une robe moirée d'or et d'une draperie tigrée et coiffée de grappes. Le souffle orgiaque faisait palpiter sa gorge et elle recevait des mains d'Hébé la coupe de la jeunesse divine et de l'ivresse éternelle. Le public, qui avait distingué dès ses débuts Mademoiselle d'Amberville, l'idolâtrait. Sa carrière avait été heureuse et rapide. Figurante, puis danseuse en double et danseuse seule, elle connaissait ce que la gloire du théâtre offre de plus bruyant et de plus délicat en applaudissements et en renommée. Elle avait excité l'enthousiasme de la foule et mérité le suffrage des amateurs. Son existence de déesse et de fée lui donnait sur les hommes un pouvoir irrésistible. Ils s'empressèrent à l'envi de satisfaire ses moindres caprices. Elle eut tout de l'amour, même de la richesse. Chacun voulait, pour lui seul, de Mademoiselle d'Amberville. Car les hommes prennent un grand plaisir à toucher les éléments naturels qui ont contribué à leur illusion et l'étreindre, si l'on peut dire, en sa nudité. Ils recherchent l'intimité d'un corps dont la vue a été la raison de leur volupté. Aussi, Mademoiselle d'Amberville, célèbre au théâtre, fut-elle courue au boudoir. L'histoire de son lit et les anecdotes de son sofa défrayaient la chronique galante, de sorte que M. de Portebise enjoignit à M. Laverdon de se surpasser car il savait que parfois, Mademoiselle d'Amberville ne se montrait pas insensible à la bonne mine et tout en suivant le plus souvent son intérêt, ne dédaignait point de temps à autre satisfaire son caprice. C'est ainsi qu'on lui attribuait en ce moment Monsieur de Valbin, le neveu du chancelier, qui se ruinait pour elle, et Monsieur le chevalier de Gurcy, qui ne dépensait que ce qui ne coûte guère aux jeunes gens de son âge. Cette bonne fortune, due à des qualités, disait-on, exceptionnelles, rendait M. de Gurcy le plus fat des hommes. Il se croyait tellement sûr de sa valeur qu'il ne voyait aucun danger à introduire auprès de Mademoiselle d'Amberville son ami Portebise, qui, sans avoir peut-être le mérite particulier du chevalier, pouvait au moins prétendre à celui de la fraîcheur et de la nouveauté.